Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, comme vous le savez, la Terre est recouverte aux trois quarts par les océans. L'eau salée représente 97% des eaux mondiales et il reste aux êtres humains 3% d'eau douce. On la retrouve dans les lacs, les fleuves, les précipitations et les nappes souterraines. Sans eau, il ne peut y avoir d'agriculture, de transformation industrielle ou encore de production d'énergie. Son utilisation est proportionnelle aux besoins des hommes. Oui, mais voilà, l'eau est répartie de manière inéquitable dans le monde, vous le savez. Le continent africain, à l'exception de l'Afrique centrale équatoriale, et l'Asie du Sud-Ouest sont les régions du monde les plus sèches. À partir de ce constat, comment s'organiser pour répartir cette richesse, la rendre accessible au plus grand nombre, l'utiliser au mieux, le tout en évitant les conflits, qu'ils soient internes ou transfrontaliers? Certainement, l'avenir d'un pays passera-t-il prochainement par sa capacité à gérer l'accès à l'eau? Comme nous le rappelle Éric Orsena de l'Académie française, nous avons l'eau en partage pour le meilleur et pour le pire. Le GIDE, Groupe interacadémique pour le développement, et le COPED, Comité pour les pays en développement, ont réalisé les 12 et 13 mai à l'Académie des sciences un forum consacré à la gestion de l'eau, la santé et l'agriculture en Afrique. Parmi les nombreux intervenants venus s'exprimer sur les questions de ressources en eau et des innovations technologiques en matière d'assainissement, trois d'entre eux ont accepté de venir au studio de Canal Académie pour évoquer les enjeux de la gestion de l'eau dans leurs pays respectifs. Messieurs Doudouba, Moustapha Besbès et Vincent Dabilgou, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Pour vous présenter, Doudouba, vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et techniques au Sénégal. Votre académie intervient notamment sur la conservation et la protection de la qualité des ressources en eau dans votre pays. Vous nous en direz plus dans quelques instants. Moustapha Besbès, vous êtes tunisien, professeur émérite à l'École nationale d'ingénieurs de Tunis, associé étranger à l'Académie des sciences en France. Vous êtes hydrogéologue, spécialiste de l'hydrologie des pays arides et des aquifères géants du Sahara. Même chose, vous nous en parlerez dans un moment. Et puis Vincent Dabilgou, vous avez été ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme du Burkina Faso, une fonction que vous avez quittée il y a très peu de temps. Vous êtes actuellement membre de COBATI International, Fédération de la construction de l'urbanisme et de l'environnement. Vous nous parlerez plus généralement du problème de l'eau et de l'urbanisation des villes africaines, au regard, j'imagine, de l'exemple burkinabé. Commençons peut-être par un état des lieux pour chacun des pays que vous représentez. Pourriez-vous nous donner quelques chiffres ou quelques données pour nous permettre de bien saisir les enjeux actuels de la gestion de l'eau au Sénégal, en Tunisie et au Burkina Faso? Monsieur Ba, pour commencer.
Merci bien, madame. Ce qui est important, c'est que, comme on le dit souvent, l'eau, c'est la vie. Et l'Académie des sciences du Sénégal essaie de faire en sorte de répondre aux besoins des populations, mais surtout d'être un conseiller privilégié auprès du gouvernement. Et depuis déjà quelques années, depuis 1990, le Sénégal a mis au point des programmes pour l'accès à l'eau potable, mais également pour l'accès à l'assainissement. Et en particulier, il y a un programme qui s'appelle PEPAM, le programme d'eau et d'assainissement pour le millénaire, qui est en cours d'exécution, qui doit s'arrêter en 2015, et qui nous donne un certain nombre de statistiques. De ces données, nous retenons que l'accès à l'eau potable en milieu urbain est aujourd'hui, en 2010, de 98%. En ce qui concerne le milieu rural, l'accès à l'eau potable est de 77%. L'assainissement, malheureusement, est loin de ces chiffres, puisque en 2010, il est de 62% pour le milieu urbain et seulement de 26,9% pour le milieu rural. Il y a encore beaucoup à faire sur le plan de l'assainissement, comparé en tout cas à l'accès à l'eau potable.
Assainissement, c'est-à-dire gestion des eaux usées, voilà, installation de stations d'épuration.
Exactement, voilà.
Nous en reparlerons au cours de cette émission. Auparavant, peut-être laissons la parole aussi à Moustapha Besbès qui est avec nous. Quels sont les chiffres peut-être que vous pourriez nous donner pour nous situer un peu l'état de la Tunisie en matière de gestion de l'eau?
La Tunisie comporte, disons, un peu plus de 10 millions d'habitants.
sur ce pays qui fait en superficie le quart de la France, pour situer les ordres de grandeur, il tombe 36 km cubes d'eau par an. Ce sont les eaux pluviométriques. De ces quantités, 90% s'évaporent ou repart par évaporation ou évapotranspiration à travers les plantes, que ces plantes soient sauvages ou qu'elles soient cultivées. Je précise que ce taux d'évaporation est dans le monde de 62% et la France est à la moyenne mondiale. C'est-à-dire quand il pleut 100 en France, il s'en évapore et s'en évapotranspire 62. En Tunisie, dans la plupart des pays arides, c'est 90%, ce qui est considérable. Le reste ruisselle et s'infiltre, cela représente donc 10%, à peu près 4 km cubes par an en Tunisie. Cette quantité de 4 km cubes, ou 4 à 5, représente donc le ruissellement et l'infiltration, ce qu'on appelle l'eau bleue. Mais le bilan de l'eau des pays arides, c'est-à-dire nous avons été amenés à imaginer, à être un peu plus imaginatifs en termes de bilan d'eau, pour concevoir d'autres ressources et pouvoir les utiliser. Notamment, de plus en plus, maintenant, les hydrologues des pays arides considèrent que l'eau agricole, l'eau qui est pluviométrique qui est reprise par la transpiration des plantes, constitue une ressource en eau. Et cette ressource, elle est considérable. Elle est de l'ordre de 2 à 3 fois la quantité d'eau qui ruisselle et qui s'infiltre. Donc, il faut la prendre en compte et la considérer comme une ressource et la valoriser et lui accorder les investissements qu'il faut. La troisième source d'eau à prendre en compte dans le bilan hydrologique des pays arides, c'est ce qu'on appelle l'eau virtuelle. C'est la quantité d'eau qui est nécessaire pour produire les produits agricoles. Et lorsque cette eau virtuelle voyage, lorsque les produits agricoles voyagent d'un pays à l'autre, ils transportent en quelque sorte toute la quantité d'eau qu'ils ont ingurgitée au cours de leur vie. Et cette eau virtuelle ne constitue pas un faible terme du bilan en eau. En Tunisie, elle constitue à peu près le tiers du bilan d'eau du pays. Voilà pour les chiffres globaux.
Et nous reparlerons bien sûr de la situation de la Tunisie juste après. Vincent Dabilgou, même chose. Pourriez-vous nous donner quelques chiffres pour essayer de comprendre la situation au Burkina Faso?
Merci beaucoup. Je voudrais surtout, parce que comme je parle de l'urbanisation, pour dire que la question de l'eau et l'urbanisation doit être une question que l'on doit voir dans le sens des tendances actuelles. Par exemple, quand on prend que l'Afrique est en train de s'urbaniser, si vous faites des projections dans les 30 ans à venir, la population totale, la population urbaine, va dépasser l'ensemble des populations de vos États, l'Occident, par exemple. Donc ça veut dire que nous avons des grands enjeux parce que nous sommes, si vous voulez, une Afrique qui a un taux d'urbanisation de 2,4%. Mais quand vous avez parlé tout à l'heure des ressources en eau, quand vous prenez l'ensemble des ressources en eau mondiales au niveau donc, de la planète, l'Afrique, avec son taux d'urbanisation, se retrouve seulement avec 20% de l'ensemble des ressources en eau. Alors quand on voit une population qui se développe vite à cause donc du taux de natalité, mais aussi du point de vue de l'exode rural vers les villes, on voit des villes qui grossissent rapidement, on se rend bien compte que la question de l'eau est une question essentielle. En Afrique, lorsqu'il pleut beaucoup, vous aviez, parce que les villes s'urbanisent, donc le taux d'infiltration devient nul. Alors vous aviez beaucoup d'infrastructures qui partent, ce sont des inondations quand il pleut beaucoup. Mais quand il ne pleut pas, il y a la famine chez nous. Donc, vous voyez, ces deux tendances qui sont très difficiles. Et ce que j'ai tenté de démontrer dans cette communication, c'est de montrer que l'Afrique est vulnérable dans les deux sens. Quand il y a beaucoup de loups, nous avions beaucoup de destruction. À Ouagadougou, par exemple, il y a à peine 4 ans, donc 2009, en septembre, nous avons eu une pluie de 300 mm donc d'eau qui est tombée en moins de 5 heures. Et nous avons eu, si vous voulez, 250 000 habitations qui sont tombées et nous avons eu 3 morts. Et ça, c'est dans la capitale, par exemple. Mais vous regardez au niveau de la sécheresse aussi, en 83, vous vous rappelez, avec les changements climatiques, il y a eu 400 morts donc, dans des pays du Sahel. Hein. Donc, c'est des questions essentielles que nous devions pouvoir gérer. Quand il y a l'eau, il y a des problèmes. Quand il n'y a pas d'eau, nous devons pouvoir... Donc, notre urbanisation doit pouvoir tenir compte de cela et comment nous façonnons, comment nous créons une ville, comment nous créons une mentalité, comment nous créons un homme qui se développe en regardant les ressources en nous. Parce que la technologie de l'Afrique est calquée sur la technologie de l'Europe. Alors les modes de consommation de l'Europe n'est pas la même que nos modes de consommation nécessairement si on regarde nos questions d'eau. Vous prenez par exemple la question de l'assainissement. Nous, on a aussi dans nos WC des technologies comme les vôtres. vous avez plus d'eau que nous. Nous, on n'a pas de l'eau. Donc, normalement, on devait pouvoir trouver des technologies adaptées à notre contexte compte tenu de la rareté de l'eau. Or, il se trouve que nous ne le faisons pas. Et donc, ce que j'ai démontré, c'est que nous devions pouvoir nous urbaniser en étant nous-mêmes, mais trouver plutôt des alternatives, trouver des imaginations pour pouvoir avoir des schémas d'urbanisation qui tiennent compte de la place de l'eau dans la façon dont nous allons bâtir les villes. Et la façon dont aussi l'homme doit se comporter en tenant compte des besoins en eau énormes dans son milieu urbain.
Alors, vous avez parlé de la question de l'assainissement. C'est un sujet qui touche beaucoup de pays, notamment le vôtre, le Sénégal, Monsieur Doudouba. Justement, vous nous avez parlé rapidement au tout début de cette émission du programme Eau potable et assainissement du millénaire. Est-ce que vous pourriez nous parler des projets concrets qu'englobe justement ce programme ?
Ce programme doit mettre en œuvre des activités qui doivent aller dans le sens d'avoir de l'eau potable pour toutes les populations, la population urbaine comme rurale, mais également mettre à la disposition des populations des structures d'assainissement. Assainissement, bien sûr, des eaux usées, mais également assainissement sur le plan hygiène pour pouvoir faire en sorte que les populations rurales comme urbaines puissent avoir accès. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cela ne peut être qu'une partie des besoins en eau, puisque vous avez à côté des besoins pour l'agriculture, vous avez des besoins pour le bétail, vous avez des besoins industriels. Donc, en vous donnant ces chiffres, c'était pour un tout petit peu nous arrêter uniquement en milieu urbain et rural, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un déficit important en eau qui doit être comblé. Et l'Académie des sciences et techniques du Sénégal aide ce programme justement à lui donner les moyens de pouvoir trouver des solutions à ces problèmes de quantité, bien sûr, mais également des problèmes de qualité de l'eau. Je crois que nous en sommes là et ce qu'il faut noter, c'est qu'un pays comme le Sénégal est un pays où il n'y a que deux saisons. Une saison de pluie qui ne dure que 2 à 3 mois et une longue saison sèche. Vous comprendrez par conséquent que très souvent, les nappes n'ont pas le temps de se charger et il y a également une surexploitation des terres qui sont cultivables. Et cela, bien sûr, pose des problèmes et l'Académie doit aider à pouvoir faire en sorte que nous puissions trouver des solutions à ce problème. Et il s'y ajoute également que, compte tenu de ce déficit de surcharge en eau, il y a maintenant un phénomène de salinisation qui, malheureusement, conduit à la perte de plusieurs terres cultivables. Et là également, l'Académie doit aider à faire en sorte que ces terres-là puissent éventuellement être récupérées.
Donc vous représentez l'Académie des sciences et techniques au Sénégal, on a bien compris le rôle de cette Académie, mais à qui vous adressez-vous ? Est-ce que vous vous adressez au gouvernement ? Est-ce que vous vous adressez au public directement ? Quelle est votre cible ?
Notre cible, nous sommes un conseiller des autorités publiques, conseiller des autorités privées, conseiller de la société civile. Donc nous nous adressons pratiquement à l'ensemble des acteurs s'intéressant à l'eau. Nous avons la possibilité de nous autosaisir, mais nous avons également la possibilité de répondre à une demande du gouvernement. Et nous allons mener dans une dizaine de jours un travail sur la salinisation, et ceci à la demande du gouvernement sénégalais. Nous avons tenu, il y a quelques années, une séance spéciale pour parler des catastrophes liées à l'eau en prenant un exemple d'une inondation à Saint-Louis qui fut la première capitale du Sénégal. Et là, nous avons réuni tous les acteurs qui sont intéressés à ce problème. Aussi bien les acteurs centraux que les acteurs régionaux, la société civile et bien sûr les utilisateurs. Donc notre cible, c'est de faire en sorte que tous les acteurs puissent se retrouver pour que lorsqu'il y a la possibilité de prendre des décisions, que ces décisions soient éclairées.
Eh bien, merci. On va changer de pays. On va passer à la Tunisie. Je reviens vers vous, Mustapha Besbez. Dans votre présentation consacrée donc notamment à la Tunisie, vous dites « La Tunisie est le pays où la qualité de l'eau est la plus menacée ». Pourquoi, Mustapha Besbez ?
La Tunisie a commencé très tôt à élaborer des plans d'aménagement des ressources en eau depuis l'indépendance, donc depuis plus de 50 ans. Et la Tunisie a très vite eu des programmes de mobilisation de ces ressources. Et plus on exploite ces ressources, plus on les rend vulnérables. Et donc plus on va drainer des ressources de plus en plus lointaines, profondes. Et on peut faire donc appel à des gisements d'eau qui sont de moins bonne qualité. Et c'est dans ce sens que j'ai dit que la qualité des eaux est la plus menacée, entre autres. Mais c'est surtout la quantité qui est menacée. Dans mon intervention, j'ai essayé de comprendre quel était le concept de sécurité hydrique dans les pays arides en général, et notamment en Tunisie, qui est un pays modèle dans la mesure où elle a très vite, très tôt mobilisé ses ressources, et donc on atteint la limite de ses ressources, et que dans la mesure aussi où les indicateurs qui servent à mesurer la sécurité hydrique d'un pays sont basés généralement sur deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la démographie, c'est-à-dire qu'on compte le nombre de mètres cubes disponibles par habitant. Le deuxième paramètre, c'est la vulnérabilité de la ressource, donc quelle est la fraction de la ressource qui est déjà exploitée. La Tunisie a exploité très vulnérable dans le sens où elle a exploité une grande proportion de ses ressources. L'exemple tunisien est intéressant dans la mesure où la Tunisie plus ou moins maîtrisé sa démographie. Donc le premier de ces paramètres n'intervient plus. Vous savez, quand on analyse un phénomène, il vaut mieux serrer les paramètres qui le commandent. S'il y a trop de facteurs à la fois qui commandent un phénomène, on ne sait plus quelles sont les causes essentielles et on ne sait plus analyser le phénomène. Donc le choix de la Tunisie est intéressant parce que les projections démographiques dorénavant nous disent que la population tunisienne, qui est aujourd'hui à un peu moins de 11 millions d'habitants, va se stabiliser, risque de se stabiliser à l'horizon 2050 à 12,5 millions. Alors qu'il y a seulement 20 ans, on pensait que la population tunisienne allait atteindre 16 millions d'habitants en 2050. Et tous les 5 ans, les projections successives baissent le palier démographique. Donc, j'en reviens à mes indicateurs de sécurité hydrique en Tunisie. Et donc, on peut analyser la situation dans la mesure où le seul indicateur d'insécurité hydrique, c'est le fait que l'on prélève beaucoup trop de nos ressources. J'ai essayé aussi d'analyser le discours sur les pénuries d'eau, qui est un discours assez général aujourd'hui dans le monde et qui prévoit de grandes pénuries d'eau dans les pays arides. Et les observations que j'ai faites, j'en arrive à penser que malgré les faibles quantités disponibles par tête d'habitants dans les pays arides, on peut arriver à s'en sortir dans la mesure où on arrive à maîtriser les grands défis qui nous attendent sur la gestion de l'eau.
Vous voulez dire qu'automatiquement, on va s'éduquer, s'auto-éduquer et moins consommer d'eau ?
Peut-être pas moins consommer, mais savoir la consommer et savoir comment la gérer en tout cas. Et les défis que j'ai identifiés sont au nombre de 4. C'est comment améliorer le niveau de sécurité alimentaire. J'ai parlé tout à l'heure dans mon introduction de l'eau virtuelle. L'eau virtuelle, et j'ai dit que le bilan des pays arides, notamment, comprenait une part d'eau virtuelle non négligeable. Donc il faut savoir gérer cette eau virtuelle. Et je développerai comment, si vous permettez. Le deuxième défi, c'est comment améliorer les termes du bilan hydrique national. J'y reviendrai. Le troisième défi, comment réduire la surexploitation des eaux souterraines. Ça, c'est le plus grand des défis, parce que les eaux souterraines représentent dans nos pays 99%, et pas seulement dans nos pays, dans le monde entier, 99% du stock d'eau douce sur les continents. Comme elles ne subissent pas les aléas climatiques, en tout cas avec beaucoup de retard, elles constituent une cible de choix pour l'exploitation de l'eau. Et le quatrième défi, et qui n'est pas des moindres, c'est la gouvernance de l'eau. C'est comment, dans nos pays, moderniser la gouvernance de l'eau. Alors, la sécurité alimentaire et l'eau virtuelle, bon, cela revient à optimiser les flux d'eau virtuelle, c'est-à-dire notamment avoir des stratégies de culture. Par exemple, nous importons beaucoup de céréales. Le bilan hydrique peut être amélioré par des techniques alternatives, le dessalement, la réutilisation des eaux usées, etc. Les eaux souterraines, elles forment de très grands dilemmes parce que l'État doit arbitrer entre le développement économique et la protection de la ressource. Et la modernisation de la gouvernance de l'eau, je pense qu'il faut, pour éviter tous les dysfonctionnements que l'on observe, il faut plus d'États. Paradoxalement, alors que les ressources en eau sont mondialisées maintenant avec ces transferts d'eau virtuelle, il faut des États forts, comme dans toute mondialisation, mais aussi il faut plus de démocratie et dans la gestion locale de l'eau. Il faut plus de transparence dans les procédures de gestion de l'eau, donc plus de subsidiarité, subsidiarité implique une grande démocratie et également beaucoup plus de connaissances générales de la société. Connaissance non seulement des problèmes de l'eau, mais connaissance au sens général.
Alors justement, et très rapidement pour laisser aussi la parole à Monsieur Dabilgou, justement si vous parlez de plus de démocratie, si on est dans une situation de raréfaction de l'eau, de consommation beaucoup plus restreinte, justement, ne serait-ce pas plutôt des conflits qui vont s'engendrer plutôt que, idéalement, plus de démocratie?
Les conflits ne peuvent se résoudre que par la négociation. Et la négociation ne peut se concevoir que dans un système d'échange équitable.
Donc l'un n'empêche pas l'autre?
Non.
C'est ce que vous voulez dire. Vincent Dabilgou, pour terminer cette émission, quand même quelques mots sur votre programme. J'ai dit donc en préambule de cette émission que vous étiez l'ancien ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme au Burkina Faso, et cela, vous l'avez encore occupé ses fonctions il y a encore quelques jours, et actuel membre de Cobati, qui donc est la fédération de l'urbanisation. Quels sont les problèmes que vous allez rencontrer si rien n'est fait dans l'aménagement des espaces urbains en matière de gestion de l'eau?
Bien, je dois dire que le problème des pays africains, c'est que nous avons, dans un premier temps, conçu des villes. Et quand on prend les noyaux urbains de l'ensemble des pays africains, on les a construits sans véritablement tenir compte de l'eau comme étant le fil conducteur de l'aménagement. Et aujourd'hui, quand on examine la plupart des capitales ou des grandes villes en Afrique, on se rend bien compte que la question de l'eau est posée. La question de l'eau est posée d'abord en termes de ruissellement pluvial. Est-ce que, par exemple, l'eau que nous recevons, la pluie, est-ce que nous arrivons à collecter l'ensemble de l'eau qui tombe? Déjà que nous avons imperméabilisé l'ensemble des sols au niveau des villes. Et donc, quand on fait l'analyse urbanistique, le diagnostic urbanistique, on se rend bien compte que nous avons des ouvrages dépassés. Ça, c'est valable pour Ouagadougou, au Burkina Faso, mais c'est valable pour Dakar, mais c'est valable pour Abidjan, etc. Donc ça, c'est le problème de l'écoulement des eaux pluviales. Deuxièmement, le fait que nous avons la pression de l'urbanisation, la pression donc des colonnes humaines qui arrivent des campagnes, mais aussi le fait que le taux de natalité dans les villes à cause du développement de la science, parce que maintenant la mortalité est maîtrisée, etc. Nous avions donc des villes qui grandissent en termes de population et qui ont tendance à conquérir de nouveaux territoires autour du noyau urbain. Et ces nouveaux territoires ne sont pas aménagés suffisamment. N'est pas aménagé suffisamment, et c'est là-bas qu'en général vous avez un tissu urbain difficile en matière d'habitat, vous avez un tissu en matière du ruissellement pluvial inexistant en termes de collecteurs. Donc le problème des villes africaines, c'est que le noyau ancien a besoin donc d'être restructuré, modernisé, le noyau qui est en train de se développer n'est pas suffisamment planifié, et les ressources manquent aussi pour pouvoir planifier et assainir correctement donc ces nouveaux territoires. Donc ça, c'est un véritable défi. Deuxièmement, c'est que vous avez aussi les schémas d'urbanisation. La façon dont on concevait donc, la ville africaine, aujourd'hui, on ne peut plus la faire. Or, nous ne pouvons pas recommencer parce que les moyens manquent. Mais si on doit tenir compte du changement climatique aujourd'hui, je suis en face de la Seine, on voit comment ça a été aménagé. L'eau doit être intégrée à la ville en termes d'aménagement, pour permettre à l'homme d'être un élément, l'eau d'être fédérateur de l'activité humaine. En termes de loisirs, en termes d'alimentation à nous, mais aussi en termes donc, de vie même à l'échelle de la ville. Donc c'est pour dire que l'eau dans la ville doit être repensée. Et pour pouvoir repenser ça, je pense qu'il y a des technologies. Et encore une fois, les technologies que nous avions, quand on regarde du point de vue technique, ce qu'on a développé dans les pays occidentaux, ça demande beaucoup de moyens. Parce que quand vous prenez la conception de la route, quand vous prenez la conception des ouvrages du ruissellement pluvial, nous, au niveau africain, nous ne pouvons pas faire comme vous. Ce que nous devons faire, c'est faire en sorte que, par exemple, il y ait de plus en plus de sols perméables. Nous ne pouvons pas tout imperméabiliser. Nous devons faire en sorte que la façon dont nous pensons, nous devons pouvoir alimenter les nappes souterraines, notre façon d'aménager la ville. Nous devons pouvoir créer des couloirs pour que l'eau circule en même temps que l'homme. Et ça, il faut que nous y pensions. Donc pour moi, je pense que nous devons avoir une urbanisation beaucoup plus imaginative. Et pour ce faire, ce n'est pas une question nécessairement de l'argent, mais c'est une question d'être nous-mêmes. Vous prenez par exemple la question de l'assainissement. Les pays africains sont en train d'échouer parce que nous avons pris la question de l'assainissement en regardant l'Occident. Et alors que nous n'avons pas les mêmes ressources, non, pas les ressources en nous de l'Occident, nous devons regarder l'assainissement en nous regardant nous-mêmes. Mais regarder l'assainissement en essayant de façonner nos mentalités. Et ça, c'est parce que l'assainissement aujourd'hui a un coût que nous ne pouvons pas trouver, que nous ne pouvons pas avoir, que nous sommes en train d'échouer parce que nous ne pouvons pas générer le flux financier nécessaire pour pouvoir résoudre nos problèmes d'assainissement. Les questions d'assainissement se posent et c'est dramatique parce qu'il y a des questions liées aux maladies et il y a des questions liées même à la qualité de la vie en milieu urbain. Et là aussi, il y a des solutions. Il y a des solutions et nous avions donc des organisations spécialisées pour cela. Et dans mon intervention, vous avez vu, nous avons développé sur l'ensemble des techniques que nous pouvons avoir, par exemple, pour avoir l'assainissement, ce qu'on appelle l'assainissement autonome, c'est-à-dire à l'échelle de la famille, dans une concession, comment on fait pour pouvoir récupérer l'ensemble des eaux pluviales dans une cour? Comment on fait pour que cette eau-là puisse être réutilisée à l'échelle de la cour? Et comment on fait que pour, par exemple, que les excréta, comment on les récupère? Et dans quel ouvrage d'assainissement? Pas le WC à la turque ou la française que vous aviez, mais nous-mêmes, quel type d'infrastructure d'assainissement nous pouvons créer? Et nous avons créé et nous pouvons récupérer donc ces excréta à la cour pour pouvoir refaire du jardinage, pour pouvoir faire de l'agriculture. C'est ça que nous devons faire. Au niveau pluvial aussi, comment le maire, un maire de ville, peut pouvoir mettre une gestion plus intégrée des eaux pluviales à partir du schéma directeur? Ça aussi, nous avons des nouveaux modes de schéma directeur. Pas les schémas directeurs que nous avons appris à faire ici dans vos écoles françaises d'ingénierie. Mais nous devons aussi façonner à partir de la science, regarder l'Afrique, nous-mêmes, regarder nos ressources en nous, mais regarder notre sol, le connaître très bien. Parce que nous ne prenons pas souvent le temps de bien connaître les sols, de bien connaître nos nappes. Ce sont des solutions que nous devons explorer. Et je suis confiant que si de plus en plus l'académie nous permet de pouvoir développer donc ces genres de technologies en nous regardant nous-mêmes, mais en utilisant la science telle qu'elle doit être utilisée, nous allons pouvoir trouver une solution aux défis que pose le problème de l'eau et face à l'urbanisation. Parce que l'Afrique est un cas particulier, il y a peu d'eau et de plus en plus nous serons plus nombreux dans les villes. Comment faire? Et ça, il faut de l'imagination. Parce que l'eau est une richesse qui va coûter cher de plus en plus et qui a commencé à coûter cher. Et en Afrique, si on n'y a pas une solution originale, nous ne pouvons pas avoir un développement urbain durable.
Vous avez parlé du changement climatique. J'imagine que c'est aussi à intégrer dans ces notions comment repenser la ville ou comment penser la ville et l'urbanisation qui s'accompagne.
Oui. Là, le changement climatique, les gens ont l'habitude de voir ça sous forme donc, de système d'alerte à mettre en place. Mais là encore, en utilisant le schéma tel que là. Mais je pense que le changement climatique, ça va demander un peu que nous puissions nous approcher de la science pour avoir comment notre capacité de prévision, de connaissance des phénomènes climatiques à long terme. L'Afrique, nous nous faisons surprendre tout le temps. On se fait surprendre parce que nous ne connaissons pas la façon dont le climat. Il faut que les gouvernements et les autorités acceptent de donner en tout cas des moyens pour pouvoir asseoir des stations météorologiques qui vont pouvoir nous apprendre à pouvoir prévenir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment on se comporte, les populations. Parce que vous avez en Afrique des ruptures de barrages où on sait qu'il y a des changements climatiques, on sait que les saisons sont déréglées, mais on ne fait rien pour pouvoir, par exemple, sécuriser les infrastructures au niveau des barrages, au niveau des routes, au niveau des ponts. Et donc, ça fait que nous sommes toujours surpris. Mais le troisième point, c'est que nous devons apprendre aussi à dimensionner les ouvrages en tenant compte des changements climatiques. Parce qu'aujourd'hui, pour faire une route, nous continuons à dimensionner toujours de la même façon. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes dans des situations où des pluies centennales deviennent des pluies qui viennent pratiquement, elles peuvent venir deux fois. Alors qu'avant, il fallait attendre 100 ans pour son retour. Mais aujourd'hui, c'est comment dimensionner et trouver les moyens que le dimensionnement que vous avez prévu, que vous trouvez le bail de fonds qui est prêt à pouvoir vous donner l'argent nécessaire. Parce que ça coûte cher, dimensionner en tenant compte des changements climatiques. Et l'Afrique n'a pas souvent les moyens. Il faut qu'il y ait un élément, il faut qu'il y ait une solidarité autour des questions de changement climatique en termes de connaissances scientifiques, mais aussi en termes de préparation par rapport aux infrastructures à construire ou des infrastructures à sauvegarder.
Et on a bien compris cette notion, cette importance de s'approprier ces enjeux de gestion de l'eau, d'assainissement et de tout ce qui l'environne. Merci à tous les trois d'être venus nous voir pour cette émission consacrée à l'eau et à la gestion dans les pays d'Afrique, et en l'occurrence les vôtres, Burkina Faso, Tunisie et Sénégal. Merci à tous les trois et j'espère à bientôt pour une prochaine émission, un prochain rendez-vous à l'Académie des sciences. Merci.
Merci beaucoup.